France Musique. Les grands entretiens, Saskia Deville.
Bonjour, je suis Karine Dehaye, mezzo-soprano. Je suis née le 25 janvier 1972 à Rueil-Malmaison.
Bonjour Karine Dehaye.
Bonjour.
Merci de nous recevoir pour cette série de grands entretiens. Nous sommes dans votre salon, chez vous, dans le 11e arrondissement à Paris. Mais tout a commencé ailleurs, dans les Hauts-de-Seine. Racontez-nous votre venue au monde.
Alors, il paraît que j'ai hésité à sortir du ventre de ma maman. Donc, en fait, je suis arrivée 15 jours de retard. Mais je crois que c'est parce que c'était l'hiver et qu'il faisait froid, hein, tout simplement. Donc, voilà. Et puis ensuite, on m'a toujours dit que j'étais une enfant très très joyeuse, que je chantais déjà tout le temps. Évidemment, au départ, des chansons enfantines. Et puis, évidemment, tout le répertoire des Walt Disney. Vous imaginez, mes parents étaient très contents. Ils me connaissaient tout par cœur. Donc, c'est vrai que j'ai été, comme on dit, baignée dedans toute petite très tôt. Mon papa était corniste. Donc, évidemment, c'est un son que j'apprécie beaucoup et que je reconnais d'ailleurs tout de suite dans un orchestre. J'arrive à suivre tout de suite la ligne de corps parce que forcément, je pense que je l'ai entendu même bébé, hein, ça c'est sûr. Et ma maman était comptable. Donc voilà, c'est un mélange de musique et de chiffres, vous voyez. Et pour la musique, je trouve ça très bien, le mélange justement des mathématiques et puis de l'oreille musicale. Et c'est vrai que j'ai été donc très très tôt à des concerts, à des répétitions, et j'adorais ça. Dès l'âge de 4-5 ans, mon papa m'a amené voir les concerts. Et ça a été beaucoup plus tard, par contre, pour l'opéra. Et c'est vrai que c'est grâce, voilà, à mon père que j'ai découvert cet univers. Dans ma famille, on écoutait aussi, je pense à mon arrière-grand-mère notamment, des disques, oui, de musique classique, d'opérette. C'était l'époque où il y avait les opérettes au Châtelet, donc mon arrière-grand-mère y allait. Et donc voilà, j'ai évolué dans cet univers où la musique était très 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 présente parmi les sorties culturelles que l'on pouvait faire.
Avez-vous des frères et sœurs ?
Je suis toute seule. Donc en fait, je me suis fabriquée des frères et sœurs.
Mais à quoi alors ressemblait votre quotidien de petite fille ?
C'est particulier parce qu'en fait, moi, mes parents travaillaient beaucoup. Mon père, justement, étant musicien, aussi bougeait beaucoup et s'absentait beaucoup. Donc, j'ai eu une enfance de petite fille qui était avec mon arrière-grand-mère. J'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère jusqu'à mes 19 ans. Et donc, c'est elle qui venait me chercher à l'école ou qui m'amenait à l'école. Avec elle aussi, j'allais au cinéma, au musée. On allait voir aussi des concerts. Donc, en fait, j'ai eu la chance d'avoir eu beaucoup, beaucoup de souvenirs d'enfance avec mon arrière-grand-mère, typiquement parisienne, qui habitait rue Fontaine, près de Pigalle. Donc j'ai découvert tout un quartier de Paris qui m'est encore très cher. Et c'est vrai que je pense qu'elle m'a beaucoup aussi forgé dans mon caractère et m'a beaucoup donné confiance en moi, en tout cas.
Un jour, mon prince viendra.
étaient vos rêves de petite fille ?
Alors, le premier rêve, et ça on me l'a répété parce que je ne m'en rappelle pas forcément parce que j'avais 4 ans, mais effectivement, quand on demandait aux petites filles qu'est-ce qu'elles voulaient faire plus tard, mes copines c'était maîtresse d'école, voilà, danseuse, infirmière, enfin, et moi je voulais faire Blanche-Neige.
Tout simplement.
Tout simplement. Donc là on a dû se dire...
Qu'est-ce qu'elle a de si particulier Blanche-Neige ?
Ben, c'est surtout que j'avais appris toutes les chansons de Blanche-Neige, vous voyez. Donc je me suis dit, ça y est, je suis prête, je peux faire Blanche-Neige. Et finalement j'ai pas été si loin au niveau du rêve, parce que j'ai réussi à faire Cendrillon quand même en scène. Donc j'ai pas réussi à faire Blanche-Neige, mais Cendrillon. Voilà, j'ai fait un autre personnage aussi de Walt Disney. Mais en tout cas, oui, j'avais quelque chose, en tout cas, qui m'attirait par rapport, je pense, je savais pas si c'était, l'opéra, la musique ou quoi, mais il y avait quelque chose qui m'attirait par rapport à ça. Et l'expression, effectivement, par rapport à la voix, en fait.
Et par rapport au personnage aussi?
Alors, quand on est petite, oui, parce que, oui, il y a le prince charmant, hein. C'est la bonne éducation qu'on fait croire à toutes les petites filles. Mais, ouais, l'histoire, parce que oui, c'est des happy ends, c'est vrai. Après, j'ai aussi beaucoup d'émotions quand je vais voir aussi au cinéma des histoires tristes, voilà, ou à l'opéra. Et je suis la première à pleurer. Bon public, voilà. Quand on doit rire, je rigole, mais à fond. Quand c'est triste, je pleure. Enfin, voilà, c'est mon côté petite fille aussi qui est resté, là, je pense.
Quelle petite fille étiez-vous ? Vous étiez volontaire ou plus introvertie ?
D'après ce qu'on m'a dit, j'étais pas vraiment introvertie, ça c'est sûr. J'étais pas timide. Est-ce que je savais ce que je voulais ? Je sais pas, mais en tout cas, j'y croyais, ça c'est sûr. Comme beaucoup d'enfants, voilà, j'avais des rêves. La musique, je sais pas si je voulais en faire tout de suite une activité, j'allais dire importante, et puis forcément après le développer et que ce soit mon métier. Mais j'aimais bien le sport aussi à l'époque.
Quel type de sport ?
J'ai fait de la danse, j'ai fait de la natation.
Danse classique ?
Danse classique. Alors pas très longtemps parce que comme j'étais moins souple que mes copines, j'ai tout de suite compris que c'était pas ma voix. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais plus vers la musique tout de suite. Mais en tout cas, ça m'a appris aussi une rigueur, ça c'est sûr. J'aimais bien le ski aussi, voilà, quand j'étais petite. J'ai fait du cheval aussi, voilà, j'ai un peu touché à tout. Donc j'étais curieuse, ça, d'après ce que l'on m'a dit, c'était ça. J'ai beaucoup de curiosité. Et après, effectivement, quand il a vraiment fallu faire un choix, donc là, je me suis vraiment après consacrée à la musique.
Vous étiez bonne élève, Karine Dehaye ?
J'étais bonne élève, je suis contente de le dire. J'étais souvent première ou deuxième de la classe toute la scolarité du primaire. Et puis après, évidemment, au collège, en fonction des matières, voilà, j'avais des matières où j'étais meilleure que d'autres. Mais j'aimais bien travailler, en fait.
Lesquelles, par exemple ?
Pour le coup, j'étais en bac économique, moi, à l'époque, donc c'était B. Et j'étais bonne en maths, mais voilà, c'est pas des maths de scientifiques. Mais en tout cas, c'est une matière que j'aimais bien. J'aimais bien la philosophie aussi, mais pareil, j'étais pas en littéraire. Mais c'était aussi en fonction des professeurs, en fait.
Il y a les périodes à l'école, il y a aussi les vacances. Où alliez-vous ?
Alors, en vacances, j'allais d'abord, quand j'étais toute petite, en colonie. J'adorais les colonies, moi. Hein. Donc, de l'âge de 5 ans à 14 ans, j'ai fait des colonies, vous voyez. Et à la fin, des colonies musicales. Donc, j'y allais avec mon petit violon. Et puis après, je partais avec mes parents, bien sûr.
Mais vous rappelez-vous de votre première colonie ?
Je crois que c'était en Bretagne. Parce que j'ai 5-6 ans, donc je crois que c'était en Bretagne. Et là, au départ, c'est des petits séjours hein, d'une semaine. Puis après, c'est 15 jours. Puis après,
c'est quand même
semaines.
Déjà pas mal.
Ouais, mais en tout cas, j'aimais bien. J'aimais bien déjà partir. Vous voyez, il y a un truc qui revient maintenant. Ouais. Je me rappelle de copains, copines qui, au contraire, eux, dans le car ou dans le train, qui pleuraient. Fallait dire au revoir aux parents, ils pleuraient. Et moi, j'étais déchaînée. J'étais heureuse comme tout de partir. Heureuse de rentrer, hein. Mais heureuse de partir. Ouais. Et puis justement, je suis fille unique. Alors moi, les colonies, j'avais plein de copains, copines d'un seul coup, donc c'était extraordinaire pour moi.
C'était créer un nouveau set.
Ouais, un groupe, exactement, ouais. Et je me dis maintenant, quand je pars en production, c'est ça aussi, quoi. J'aime partir. Jusqu'à présent, en tout cas, voilà. J'aime bien partir. Ça me dérange pas pour le travail.
J'ai réussi sans être découvert.
nuit solitaire. Par les terrasses du palais en courant, j'ai perdu ma pantoufle de verre. Marraine, marraine,
il y a l'enfance, il y a l'adolescence, Karine Dehaye. Comment l'avez-vous vécu, cette période-là?
Bah, pareil, moi, j'ai que des bons souvenirs. Vraiment, non, mais. Dans le lycée où j'étais, qui était un lycée privé, c'était Notre-Dame de Sion à Évry, on avait du catéchisme, on avait la messe. Et moi, au départ, ben, je jouais du violon à la messe. Puis après, j'ai chanté, vous voyez, donc j'ai fait des phases en fonction de mes instruments. Et donc, tout le monde aussi, mes amis, en tout cas, se souviennent de ça, en fait. C'est là, on se rend compte que quand on est enfant, même si on n'est pas forcément musicien ou qu'on n'est pas cet univers-là, on peut être sensible à la musique, à la voix, et puis encore plus quand voilà, c'est des proches, quoi. Donc moi j'ai ce souvenir là voilà, d'avoir en tout cas pu faire de la musique à l'école.
Vous vous rappelez de certaines réactions parmi vos camarades à l'école quand vous chantiez ou quand ils venaient vous écouter?
Oui, alors au départ il y a toujours l'étonnement parce qu'ils se demandent comment le son peut sortir. Même si forcément à l'époque la voix était beaucoup beaucoup plus petite, mais en tout cas le fait de pouvoir chanter sans micro, donc c'est ça en fait qui à chaque fois qui pouvait impressionner les copains, les copines. Le violon impressionnait moins en fait, c'est ça qui est étonnant. Ils étaient moins impressionnés par le violon que par la voix, voilà.
Et ça vous plaisait d'impressionner justement?
Ben oui, parce qu'en fait, au départ, on se rend pas compte de l'effet que ça peut faire. Et puis même, avec le temps, même moi, je le vois aussi, le fait aussi de pouvoir, oui, recevoir une voix, recevoir un instrument, que le corps vibre par rapport à ce qu'on reçoit. Le live aussi, c'est ça l'histoire. C'est que beaucoup peut-être connaissaient par le biais d'un disque ou la radio ou la télé, et d'entendre en live aussi. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand ils n'ont jamais été à un concert, il faut au moins essayer une fois. C'est un peu comme le sport. Les gens vont nous dire que c'est pas la même ambiance dans un stade, voilà, sur un court qu'à la télé. Ben c'est la même chose pour nous en fait, pour la musique. C'est le live.
France Musique, les grands entretiens de Karine Dehaye.
Vous rappelez-vous de votre tout premier concert?
Bah, j'avais le trac, ça c'est sûr. Voilà. J'ai un autre souvenir aussi au violon, c'est quand on faisait l'orchestre. Ça par contre, j'adorais. J'adorais faire les sessions d'orchestre et on faisait les danses hongroises de Brahms. Et ça, j'adorais déjà en fait jouer avec les autres aussi. Ça c'est quelque chose qui me guide encore pour la voix maintenant. Dire que oui, on a un instrument soliste, mais moi j'adore chanter avec les autres, faire des ensembles, de la musique de chambre. Voilà, chanter un air, j'ai envie de dire oui, c'est sympa, mais pour moi c'est pas l'aboutissement quoi. J'aime vraiment à chaque fois créer quelque chose. Un ensemble, être à l'écoute. Et peut-être que ouais, mon côté violoniste m'aide à ça maintenant, quoi. Le côté instrumentiste, en tout cas, vraiment.
Et alors, en tant que spectatrice?
Alors, spectatrice, j'ai pas un souvenir précis des premiers concerts. Mon papa m'a emmené aux des répétitions. Mais par contre, du premier opéra, oui. Et ça, c'était La Norma. Alors ça, je m'en rappelle, c'est incroyable, ça m'a beaucoup marqué. La Norma à l'Opéra Garnier. Et il y avait donc deux grandes chanteuses françaises qui chantaient Norma et Adèle Giza, qui sont Michel Lagrange et puis Martine Dupuis. Et ça m'a subjuguée. Et je me suis dit « waouh ». Voilà. Je ne savais pas si je pouvais en tout cas en faire mon métier, mais c'était quelque chose qui m'attirait, d'avoir entendu ces deux voix en live, la performance vocale. Après, en plus, avoir eu la chance, grâce à mon papa, d'aller dans les coulisses. J'ai eu la chance de voir beaucoup de choses en coulisses et de voir ça, de voir, même pour les ballets, j'allais dire, ça m'a beaucoup impressionnée. On voit jamais ce qui se passe derrière, mais c'est impressionnant.
Et qu'est-ce qui se passait derrière?
Ah, bah, c'est des fourmilières. On voit que c'est une fourmilière, en fait, derrière, hein. Avec tout ce qu'il doit gérer au niveau des décors, des costumes, des entrées, des sorties. Pareil par rapport à l'attitude que l'on a en scène ou que l'on a justement en coulisses. Enfin, j'ai découvert beaucoup de choses, voir les gens rentrer en scène. Parce que, évidemment, on est tous différents. Et ça m'a...
On se tient différemment.
Oui. Et ben, j'allais dire, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est les danseurs, quoi. Qui sortent, qui sont évidemment les pauvres, qui sont exténués. Des fois, ils se mettaient par terre. En plus, il y avait quand même la souffrance des pieds et tout. Enfin, on les voit, ils sont comme ça. Puis 3 secondes après, ils sont en scène et ils ont un port incroyable. Mais comment ils font, quoi? C'est impressionnant, vraiment.
Apprendre à incarner un personnage.
Complètement, ouais. Et en très peu de temps, en fait. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'ils sortent, ils récupèrent, mais dès qu'ils retournent sur scène, ça y est, c'est pas la même personne, quoi.
Un amour pour l'opéra né avec Michel Lagrange, que l'on écoute dans cette archive, c'était en 1989 sur Antenne 2.
Dès que je me suis vraiment intéressée, oui, à l'opéra, j'ai essayé de regarder des opéras, voilà, à la télé, de regarder des films. Il y avait l'histoire au même moment, il y avait l'histoire du maître de musique, là, avec José Van Damme. Ça m'a beaucoup marqué. Donc, j'ai regardé en boucle, ça, évidemment.
Qu'est-ce qui vous donnait envie?
Bah, justement, de voir l'évolution d'une voix par le travail. L'exigence, on s'en doutait, hein, l'exigence du travail. Mais de voir cette évolution et puis de voir le, après, ouais, le plaisir que l'on a quand on voit les choses comme ça avancer, quoi. Et puis le fait que oui, il y a quelqu'un derrière qui encourage, qui pousse, enfin ça, j'ai trouvé ça c'est un film qui m'a beaucoup touchée, en tout cas. Ouais. Mais en plus, ça m'a fait découvrir du répertoire, il y avait des choses que je connaissais pas dans le film, je me rappelle encore. Donc
quelle heure, par exemple?
Bah le Lied de Mahler qu'il chantait là, du chant de la terre, et ça je connaissais pas, donc j'ai découvert en plus beaucoup de répertoire grâce à ça, en fait.
Steht ein Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan. Wie der Rücken eines Tigers wird die Brücke sich aus Jade zu dem Pavillon hinüber.
Le maître de musique de Gérard Corbiot évoque également le parcours parfois difficile d'un chanteur. N'avez-vous jamais ressenti du découragement à certains moments?
Non, parce que mon papa me l'avait dit déjà, donc ça j'étais déjà prévenue, en fait, ça c'est sûr. Il m'a dit que ça allait être très difficile parce que il l'a vu lui déjà de son côté. Donc il fallait vraiment avoir conscience du travail et de l'exigence, voilà, qu'il fallait avoir. Et c'est vrai que je le dis toujours, d'avoir fait un instrument, ça m'a donné cette exigence. Parce que certaines fois, on se dit, oh bah, la voix, c'est un instrument, comme ça, c'est facile, c'est une voix naturelle, ça sort. Et non, il y a énormément de travail, en fait. Et il faut que ça reparaisse, en tout cas, de nouveau naturel. Il ne faut pas qu'on voit les efforts quand on chante, hein. Mais en tout cas, oui, c'est tout ce que j'ai pu avoir de travail en amont, voilà, en faisant du violon, en travaillant mes gammes, en travaillant mon solfège aussi. Je me rends compte que maintenant, ça m'aide aussi énormément pour la préparation de mes rôles. Ça, c'est juste génial.
Et votre père répétait à la maison?
Oui, Ouais, il répétait à la maison.
Vous assistiez à ces répétitions?
Ouais, ça m'arrivait. Et puis quelquefois, c'était drôle aussi. Il me demandait des conseils par rapport à une embouchure, par rapport au son d'une embouchure, par rapport à un corps.
Vous étiez une grande spécialiste déjà.
Grande spécialiste de l'embouchure, l'embouchure des corps. Non, mais c'était intéressant parce que ça fait vraiment chercher et
ça
travailler l'oreille.
L'oreille.
Ah bah complètement, ouais. Donc ça, c'est des choses dont je me souviens en fait.
Et qu'en pensait votre maman?
Bah, ma maman, elle m'a toujours dit que voilà, si j'avais envie de faire quelque chose, il fallait le faire et puis à fond, quoi. Mais en fait, j'ai jamais été poussée à faire ça, mais on m'a toujours laissé faire ce que je voulais. En fait, c'est plutôt dans ce sens-là. Alors évidemment, avec toujours la même phrase, passe ton bac d'abord, hein, ça, c'est pas un cliché. Fais des études d'abord pour assurer un peu tes arrières. Et c'est vrai que de toute façon, nous, comme on commence tard le chant, on peut pas rentrer très tôt au conservatoire. C'est pas comme les élèves des autres classes. Donc, en attendant, j'ai fait évidemment musicologie à la Sorbonne. J'ai eu ma licence. Et de toute façon, ça me faisait déjà travailler aussi des matières que j'ai aussi retrouvées après au conservatoire. Donc, c'était pas du tout une perte de temps. Et c'est vrai que voilà, j'ai fait petit à petit.
Hormis votre papa, Karine Deshayes, y avait-il d'autres musiciens dans votre famille?
Alors, je crois que la mère de mon papa avait fait du piano, mais pas du tout en professionnel en tout cas. Mais voilà, dans la famille, c'était bien que les filles fassent un instrument et elle ait fait du piano. Mais moi, j'ai aucun souvenir de ma grand-mère au piano, par exemple. Donc, c'est surtout mon papa, en tout cas.
Et vous avez approché le clavier un jour ou l'autre?
Oui, j'ai essayé. C'est pas du tout mon instrument, d'ailleurs, je le dis encore, là. Mais on est obligé parce qu'il faut bien céder et préparer les rôles quand même. Un peu seul, et après, évidemment, moi, je vais voir des chefs de chant. À la Sorbonne, comme j'avais des cours d'harmonie, il a bien fallu aussi que je touche le clavier. On a aussi des cours de piano, même en tant que chanteur au conservatoire. Donc, j'ai dû m'y mettre, en fait. Mais c'était vraiment pas mon instrument, donc j'ai plus souffert que les autres.
Et avez-vous tenté le cor?
J'ai essayé. Mais j'étais petite, alors à l'époque, il n'y avait pas des petits cors. J'avais 9 ans. C'était vraiment un instrument qui me plaisait beaucoup. Mais je le dis vraiment, trop difficile pour moi.
En quoi c'est difficile?
Ah non, mais parce qu'en fait, même si on appuie sur la palette pour faire la bonne note, si on ne prépare pas avec les lèvres, c'est voilà, ça sort à côté, quoi. C'est vraiment un instrument d'une grande difficulté, moi, je trouve... Et c'est vraiment pour moi de mes instruments préférés.
Il y a une chose qui connecte le corps et le chant, c'est bien évidemment le souffle.
Bien sûr. On a un instrument avant.
Votre père vous a aidé, vous en a parlé déjà?
Oui, ça par contre, ça a été une chance, une grande chance pour moi. On a fait des exercices au départ pour le souffle.
Quand vous étiez petite?
Ouais, justement quand j'ai voulu essayer le corps.
Quel type d'exercice?
Bah en fait, on fait des exercices de souffle, d'expiration, de contrôle. On regarde aussi l'ouverture des côtes. Enfin, ils me montraient les exercices que eux ils faisaient. Et c'est vrai que voilà, moi ça me sert maintenant aussi pour le chant et puis l'histoire aussi de la ligne. Quand on chante une ligne, que même s'il y a des intervalles qui montent, il faut pas se mettre sur la pointe des pieds et aller chercher le son. Eux c'est ça dans leur ligne, c'est soit on fait les notes sur la même ligne, soit au contraire on va plutôt on s'ancre dans le sol. Enfin toutes ces images en fait qui m'ont servi aussi pour le chant.
Il volte in un vero
Le barbier de Sylvie de Rossini, pour refermer ce premier épisode des Grands Entretiens avec Karine Deshaies. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Arthur Dumont, mixage d'Ophar Guérid, attaché de production Flora Sternadel. Rendez-vous demain même heure pour le deuxième épisode de ce portrait. D'ici là, les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.